Oui, d'abord, ça me fait très plaisir de revenir dans cette ville et dans cette université, puisque avant de me fixer à Lille et de travailler aussi un peu à Bruxelles, j'ai passé 5 merveilleuses années de formation, pourrait-on dire, ici au Théâtre national de Strasbourg, et j'en ai un souvenir à la fois ému et productif. Oui, mon rapport à l'œuvre de Jean-Luc Lagarce n'est pas du tout un rapport de spécialiste, comme d'ailleurs à aucune autre œuvre ou à aucun autre auteur, puisque mon métier de conseiller artistique auprès d'un directeur de théâtre m'amène, je dirais, à un regard plutôt généraliste sur aussi bien sur les textes anciens que sur les écritures contemporaines en devenir. À ce titre, Chantal Boiron, l'une des animatrices de la revue Ubu, Ubu Scène d'Europe, m'avait demandé il y a 3 ou 4 ans, je crois que c'était en 2002, d'esquisser une synthèse de l'évolution des écritures dramatiques contemporaines, francophones, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire grosso modo depuis l'après 68. Et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion véritablement de m'exprimer de façon synthétique sur l'œuvre de Lagarce, ses enjeux, son identité dans le paysage théâtral francophone. Et par commodité, mais aussi par conviction, puisqu'on me demandait une sorte de typologie, de classification, j'ai rattaché l'œuvre de Lagarce à un héritage, à une filiation que j'ai identifiée du côté de Nathalie Sarraute et de Marguerite Duras. Alors j'ai été très heureux lorsque François Béreur m'a fait lire quelques bonnes feuilles du journal intime, de retrouver effectivement parmi les lectures de Jean-Luc Lagarce, c'est très tôt, depuis la fin des années 70, des textes de Sarraute et de Duras. J'avais repéré évidemment dans Histoire d'amour première version, Histoire d'amour sous-titré Repérage, un exergue de Marguerite Duras du Navier Night. Mais d'une façon plus générale, j'avais repéré dans l'écriture de Jean-Luc Lagarce des éléments d'écriture qui la rattachaient à ce que Arnaud Rickner a appelé les théâtres du nouveau roman. Sarraute, Duras, mais aussi Pinget. Et dans le petit papier que j'évoquais, évidemment, je faisais référence à ce formidable essai que Nathalie Sarraute a publié en 1956, qui s'appelle Année 56, l'année qui précède la naissance de Lagarce. J'apprécie la coïncidence. Et qui s'appelle l'ère du soupçon. Qu'est-ce que ça veut dire l'ère du soupçon? C'est le soupçon à l'égard de toute capacité de la littérature à rendre compte d'une vérité objective et absolue. Le soupçon à l'égard de l'illusion réaliste, à l'égard de l'illusion de réalité. C'est-à-dire la rupture par rapport à ce modèle qui s'était dégagé au XIXe siècle, notamment dans l'écriture romanesque, mais aussi dans ce qu'on appelait la pièce bien faite, c'est-à-dire dans le théâtre officiel de la deuxième moitié du XIXe siècle, rupture avec ce que Maupassant avait très bien identifié dans sa préface de Pierre et Jean. Célèbre préface que je vous conseille de lire ou de relire, à savoir le roman psychologique d'une part, le roman objectif de l'autre. Il me semble que toute cette filiation Sarraute-Duras-Lagarce, enfin que je prolonge jusqu'à Lagarce, pulvérise ces catégories d'objectivité et d'illusion réaliste et psychologique. Et que le théâtre-récit, hein, puisqu'on peut aussi rattacher d'un certain point de vue l'œuvre de Lagarce à la notion de théâtre-récit, continue de pulvériser à partir des mêmes procédés. Comment pourrait-on nommer ce parti pris esthétique ou ces procédés? Moi, je parlerai volontiers de déréalisation ou de dénaturalisation, hein, en faisant référence, bien évidemment, au réalisme et au naturalisme. Par quoi ça passe? Ça passe par des procédés très concrets, comme par exemple la décontextualisation. C'est-à-dire qu'on essaie d'effacer tout ce qui pourrait donner de l'illusion de réalité dans le contexte de l'action du récit. C'est particulièrement évident, me semble-t-il, dans des œuvres de Jean-Luc Lagarce comme « Retour à la citadelle » ou « Les prétendants », qui sont d'ailleurs deux œuvres que je vous invite à rapprocher parce que elles sont très jumelles, très, très cousines. Elles racontent un même enjeu, et on y reviendra, c'est la passation générationnelle, la transmission de pouvoir entre deux générations, que ce soit dans le domaine de l'État, du politique, de l'administration ou le domaine de la culture. Et si on regarde par exemple Retour à la citadelle, je n'ai pas sorti le livre, mais le... Ça c'est les prétendants. Retour à la citadelle, c'est là. Regardons l'exergue, non pas l'exergue, pardon, la didascalie liminaire. Où est-ce que cela se passe? Par exemple, dans la salle des réceptions. C'est tout ce que vous saurez sur le contexte et la situation précise de l'action dramatique. Même chose pour les prétendants. Autrement dit, la réalité à laquelle il est fait allusion est une réalité que je qualifierais paradoxalement d'irréelle, de flottante, de fortement abstractisée et surtout de très ouverte. Dans Histoire d'amour, dernier chapitre, il est beaucoup question de la ville. Alors, d'aucuns pourront imaginer Besançon, mais la ville de Histoire d'amour, dernier chapitre, c'est avant tout une ville qui est construite sur une opposition entre la ville haute et la ville basse, la vieille ville, la ville nouvelle, mais il n'y a pas plus là d'effet de réalité que dans la mention, par exemple, de la guerre, dans cette même pièce, la guerre qui reproduit, qui rappelle cette grande métaphore du fléau qu'on retrouve dans la tradition littéraire depuis l'Antiquité et qui assimile aussi bien la guerre et la famine à la maladie, à l'épidémie. Et là, pour ça, je vous renvoie à la très grande culture de Jean-Luc Lagarce. C'est probablement, au-delà du journal de l'année de la peste de Defoe, aux lectures qu'il a pu faire de Thucydide et de Lucrèce sur ces mêmes questions de l'épidémie assimilée à la guerre. Il y a aussi ce que je pourrais appeler le brouillage des références historiques. Dans Nous les héros, par exemple, Patrick Leboeuf en parlait hier, sommes-nous au XIXe siècle? Sommes-nous au XXe? Sommes-nous en Tchécoslovaquie, en Prusse, voire en France ou dans l'ensemble de l'Europe? Il y a certes quelques noms de la coloration prussienne qui sont échappés, mais il n'y a là aucune véritable référence historique. Autre procédé employé par Lagarce comme par ses deux éminentes prédécesseurs Duras et Sarraute, la dépsychologisation. La dépsychologisation notamment par la raréfaction dans certaines œuvres des noms et des prénoms précis. Alors, on trouve certes des noms d'emprunt, et là je renvoie encore à l'intervention de Patrick Leboeuf, c'est-à-dire des noms hérités d'une certaine intertextualité. On reprend des noms utilisés par Kafka dans ses œuvres ou dans son journal, et on les rassemble pour nommer les différents protagonistes d'une distribution, mais en même temps pour les emmener ailleurs que chez Kafka. On emprunte un certain nombre de noms symboliques. Je suis frappé, par exemple, par la très grande force du prénom Louis dans Le Pays lointain et Juste la fin du monde. Louis qui, certes, renvoie peut-être à un Louis précis de l'autobiographie, mais qui, surtout, incarne et symbolise l'enfant roi, hein, pour l'amoureux du XVIIe et du XVIIIe siècle qui était Jean-Luc Lagarce. Il est bien évident que, à la fois le culte et le meurtre de l'enfant roi, tel qu'en parlent les psychanalystes, sont l'enjeu principal de ces deux textes. Même chose pour Dernier remords avant l'oubli, où les prénoms, par exemple, de Pierre et Paul renvoie peut-être à travers Pasolini, qui sait, le double prénom de Pasolini, renvoie en tous les cas à ce couple complémentaire du bâtisseur et du poète, de l'homme de pierre et de l'homme de langue et d'idées, mais qui se trouve brouillé et inversé dans l'identité des deux personnages, Pierre et Paul. Quant à Hélène, bah, Hélène, peut-être faut-il voir, au-delà même de l'Hélène de Tchekhov dans Oncle Vania, une Hélène de Troie, c'est-à-dire une Hélène fauteuse de troubles et de guerres, une Hélène créatrice de conflits, ou enjeu en tous les cas d'un conflit. Il y a évidemment, de façon plus radicale encore, des abstractions anonymes et sexuées. Alors par exemple, dans Histoire d'amour, plus de prénoms du tout, premier homme, deuxième homme, la femme. Même chose dans Music Hall, qui en est une variation, premier boy, deuxième boy, la fille. Il y a aussi les sobriquets ou les noms ou surnoms liés à des périphrases. Je pense à longue date, hein, l'ami de longue date, qui se contracte en longue date. Et évidemment, ce que reprend Olivier Py dans Illusion comique, quand il évoque Jean-Luc Lagarce lui-même sous le sobriquet périphrastique du poète mort trop tôt. Hein. Il y a les compressions de personnages. Ça, c'est un artifice qui déréalise totalement la psychologie et l'ancrage naturaliste. Dans Le Pays lointain, par exemple, les rencontres de passage se subsument en un seul personnage, un garçon tous les garçons. Voilà. C'est d'une audace tout à fait étonnante, me semble-t-il. À première lecture, en tous les cas, on se pose des questions. Il y a aussi les fonctions. Alors ça, les fonctions, fonctions familiales, fonctions sociales, renvoient peut-être à l'héritage du théâtre de Diderot, hein, qui insistait lui-même beaucoup sur la peinture des conditions et qui divisait lui-même ces deux types de conditions en conditions sociales et en conditions familiales. C'est pour ça, à l'époque de Diderot, qu'on a par exemple une pièce de Louis-Sébastien Mercier qui s'appelle « La brouette du vinaigrier », deux autres de Diderot qui s'appellent « Le père de famille » et « Le fils naturel ». Donc, parmi les fonctions familiales sont désignées très clairement dans plusieurs pièces le père, la mère, mais aussi une variation sur les différentes conditions ou fonctions familiales. Dans « J'étais dans ma maison », il y a l'aîné, il y a la seconde, il y a la plus jeune. Quant aux fonctions sociales, on les retrouve par exemple dans Retour à la citadelle avec le personnage du gouverneur et son entourage, également dans Les serviteurs, à travers les différentes fonctions de domesticité, la cuisinière, le chauffeur, la première femme de chambre, la deuxième femme de chambre, etc. Donc, ce refus de l'illusion réaliste et psychologique, ce refus de l'illusion réaliste qui assène du sens objectif et du sens univoque, s'accompagne d'une démarche esthétique générale, me semble-t-il, et d'une sorte de vision du monde chez Jean-Luc Lagarce, liée à cette notion de soupçon, hein, que Sarraute a été la première à débusquer, à constater, et aussi plus généralement, et je sais que Olivier Py a prononcé le mot dans une table ronde il y a deux jours, à la notion de doute, hein, de doute esthétique, de doute philosophique, mise en doute, mise en crise de la capacité du langage, de la littérature et des mots de la fiction à transcrire aussi bien le réel que l'émotion, ou même ce que Sarraute appelle, en d'autres lieux, le préconscient, hein, c'est-à-dire cet état intermédiaire entre l'inconscient et le conscient dont se nourrit l'imaginaire de l'écrivain. D'où la culture d'un certain nombre de procédés littéraires, de procédés d'écriture, comme l'hésitation, l'indécision, les corrections successives. Alors, on infléchit, dans le bout de phrase qui suit, le temps ou le mode des verbes. On corrige un présent en imparfait, on corrige un indicatif en conditionnel. Bref, cette hésitation est créatrice de doutes aussi bien pour le lecteur et le spectateur. L'usage a de nombreux modulateurs, des adverbes, des peut-être, des sans doute, des toutes sortes d'artifices de langage qui modulent ou modèrent la précision de l'expression, qui tourne autour, de façon là aussi très périphrastique, autour d'un objet difficile à exprimer de façon précise et exacte. La reprise, ou à la manière de ce que disent les peintres dans leur travail, le repentir, hein, et ça je crois que c'est un mot qui ferait très plaisir à Olivier Py, la notion de repentir en matière d'écriture, à cause de sa connotation chrétienne bien évidemment, la précision grammaticale ou lexicale autour de laquelle on tourne mais qu'on n'atteint jamais de façon définitive. Tout ça nous donne une espèce de recherche paradoxale du plus petit dénominateur commun ou, à l'inverse, du plus grand dénominateur commun de la description et de la narration. Hein. C'est-à-dire que il y a du flottement, il y a de l'inconfort pour le lecteur et le spectateur à recevoir un tel procédé d'écriture, mais il a le mérite, ce procédé d'écriture, de créer une nouvelle forme d'identification du spectateur et du lecteur fondée sur l'élargissement de l'ouverture du sens. Et de là, je voudrais développer un paradoxe. Pour interroger un petit peu qui se cache derrière cette pudeur, qui se cache derrière cette culture du doute et du soupçon, bien sûr le moi de l'auteur, et je reprendrai une phrase qui a été retenue dans un flash de France Info qui passé en boucle il y a quelques jours, et c'était François Béreur qui s'exprimait en réponse à une question. De quoi parle le théâtre de Jean-Luc Lagarce? Ben, le théâtre de Jean-Luc Lagarce, il parle de moi, enfin non, il parle de lui, donc de moi et de tous les autres autour de moi. Hein. Mais il en parle par ce procédé paradoxal de l'élargissement et de l'ouverture du sens. Alors, on pourrait penser que ces procédés de déréalisation, d'abstractisation du discours et de l'écriture correspondent à un refus de la notion de reflet historique ou sociologique. C'est sûrement le cas, parce que j'imagine que Jean-Luc Lagarce, méfiant comme il était à l'égard de toutes les réductions philosophiques, se méfiait beaucoup de la notion léniniste ou loukakchienne de la littérature comme reflet d'un état de la société, reflet d'une époque du monde. Est-ce pour autant une dramaturgie non historique ou anhistorique? Est-ce une dramaturgie atemporelle, déconnectée de son époque? Serait-ce là une des causes du rendez-vous manqué des années 80? Pour ma part, je pense qu'il y a un véritable ancrage historique de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, et c'est de cette façon que j'en arrive à la notion d'identité générationnelle. Je pense que c'est une œuvre qui brouille les pistes, qui essaie de nous faire croire qu'elle se détache de son ancrage historique et sociologique. C'est à mon avis une autre forme d'illusion de réalité. Ce que j'aimerais montrer maintenant, c'est en quoi, hein, en dépit de tous ces efforts d'élargissement, il faut à un moment donné resserrer le focus, le regard sur le moi, hein, le moi de Jean-Luc Lagarce et cette forte identité générationnelle qu'exprime ce moi et qui est exprimée de façon même consciente, lucide, sans complaisance, dans deux textes majeurs que je voudrais vous lire ou vous relire et commenter rapidement. C'est d'abord le texte programme des Solitaires intempestifs. Je sais qu'il a déjà été lu ici, mais il me paraît très important. Quand je dis les Solitaires intempestifs, je fais allusion à la pièce, c'est-à-dire au montage de textes qui emprunte à Jean Eustache, à Tchekhov, à Kafka, à Dumas fils, à Ibsen, Boto-Strauss et beaucoup d'autres. Si vous voulez retrouver ce texte, il est reproduit à la page 98 de ce volume qui s'appelle Traces incertaines au pluriel et qui évoque, qui effeuille page après page les différents spectacles réalisés ou projetés par Jean-Luc Lagarce entre 81 et 95. Et voilà, de quoi parle-t-il, de quoi veut-il parler dans Les Solitaires intempestifs de sa génération. Puisque ça commence par « Nous avons 30 ans, nous croisons parfois quelques gamins qui nous disent « De ton temps ?» Nous sommes nés à la fin de la guerre froide, nos parents ont l'âge de Brigitte Bardot, Johnny Hallyday et Pierrot le Fou. Ils auraient l'âge de Jean Seberg si elle avait voulu. Nous sommes les petits frères des fameux enfants de Marx et de Coca-Cola, et nos écoles sont restées fermées pendant le mois de mai 68. Nous sommes devenus, sans nous en rendre compte, les aînés de la génération morale. Nous faisons l'amour en pensant à la mort et nous sommes inquiets de la paix. Nous sommes Fabrice à Austerlitz, nous ne voyons rien des batailles et des réalités du monde. Nous sommes amusés de notre propre nostalgie, nous sommes nourris de nos livres et des livres de ceux qui nous précédèrent. Nous aimons les chansons qui nous parlent de chansons et les films qui parlent de cinéma. Nous marchons paisiblement dans la peur et la beauté des catastrophes ou des utopies les plus terribles. Nous ne sommes faits que des souvenirs qu'on nous inculqua. Nous ne sommes pas des références. Voilà, c'est le premier texte. Je rappelle que le spectacle Les Solitaires intempestifs, pendant très longtemps, dans le journal de Jean-Luc Lagarce, s'intitule 57-87. Qu'est-ce que ça veut dire, 57-87? Ben exactement la première phrase du texte d'accompagnement, Nous avons 30 ans, hein, c'est-à-dire que ça désigne la date de naissance de Jean-Luc Lagarce. Et la date de mise en projet de ce spectacle en 87, c'est-à-dire une interrogation sur les 30 ans parcourus, une interrogation donc que nous pourrions qualifier de générationnelle. Je voudrais mettre ce texte sur lequel nous reviendrons en perspective avec un autre texte que je vous lis dès maintenant pour pouvoir naviguer justement entre les deux. Il me semble que ce sont les deux textes clés de la problématique générationnelle chez Lagarce. C'est le monologue de cette très jeune fille qui s'appelle Lise dans Dernier remords avant l'oubli. Ce monologue est totalement détaché du reste de la situation. D'ailleurs, Jean-Pierre Vincent l'avait fait jouer à l'avant-scène dans un halo de lumière pour détacher complètement l'actrice et son personnage du reste justement de la situation familiale à laquelle elle appartient et dans laquelle elle était impliquée. Lise. Ils ont un peu tout fait. Ils sont assez représentatifs. Famille de la bourgeoisie naissante, provinciale et commerciale. Poitiers, Dijon, Rouen. Le triangle terrible, études larvaires, revendications diverses, post-adolescentes, montée vers la capitale, tentatives artistiques, littérature allemande et cinéma quart-monde, revendications multiples, pré-adultes, fuite de la capitale, descente, l'air pur, la vraie vie, alternative artisanale, mauve et rose tyrien, le bonheur, le paradis, cette maison-ci, puis éclatement encore, chacun pour soi, naissance de la première jolie fillette, passons, naissance de la seconde jolie fillette, abandon définitif du doux temps de la jeunesse, bibliothèque payable à tempérament, table basse, avocat crevette, rétrospective Antonioni sur les lieux mêmes du crime, j'ai 17 ans, pas caricatural du tout. Je me destine, du mot destin, destiné, je me destine au métier de la communication, logique, bilingue, une année ou deux aux États-Unis. J'aurais pu dire les States, et je ne l'ai pas fait. Bilingue et moderne, Schnitzler en édition de poche, cheveux courts et photos noir et blanc, je plaisante. J'insiste sur un certain nombre de choses dans ces deux textes que je mets en regard et que je vous invite à imiter cette démarche de façon plus précise que nous aurons le temps de le faire ici. D'abord, l'insistance dans le texte des Solitaires intempestifs sur le « nous » obsessionnel, hein, qui est martelé selon un procédé poétique bien connu, qui est celui de l'anaphore, renforcé visuellement par le fait que à chaque nouvelle phrase, même si elle est en prose, Jean-Luc Lagarce revient à la ligne, hein, recherche un nouvel alinéa. Autrement dit, le N majuscule du « nous », hein, et martelé en début de phrase de façon extrêmement insistante, une vingtaine de fois, renforcé d'ailleurs en cœur de phrase par les premières personnes du pluriel des verbes et par quelques adjectifs possessifs, « no », hein. Donc, la structure, le corps du texte repose sur ce « nous », hein, ce « nous », encore une fois, générationnel, qui devient évidemment, dans le texte de Lise, qui est censée être la fille hypothétique de cette génération, la fille réelle dans la fiction d'Hélène et de son mari, qui devient évidemment « il », deux fois seulement, beaucoup plus discret, sous la forme du « il » qu'en quelque sorte, par sa distance humoristique et critique, Lise objective cette génération du « nous ». Mais lorsque Jean-Luc Lagarce s'inclut dans ce « nous » générationnel, eh bien, il le martèle et insiste beaucoup sur ce phénomène. J'insiste aussi sur le pluriel paradoxal du substantif, les solitaires, les solitaires. C'est très intéressant de noter que le mot solitaire renvoie à la fois à de l'individualité, à de la singularité, de l'unicité, par sa sémantique même, mais que ces éléments-là sont aussitôt corrigés par le pluriel, le S final, qui en fait tout d'un coup un groupe et rattache ce groupe de solitaires à une population, à une communauté de semblables finalement. Hein. Autre façon de dire la génération et sa crise, et la génération et ses paradoxes. Le mot « intempestif », quant à lui, a son importance aussi. Je vous rappelle que l'expression « solitaires intempestifs » est empruntée à Peter Handke, dans une des répliques de « Parler village ». Intempestif, bon, c'est imprévisible, c'est inattendu, c'est incontrôlable, c'est irréductible à tout enrôlement, à tout engagement collectif, et pourtant, c'est susceptible, là aussi, d'être exprimé dans une sorte de pluriel, de pluralité communautaire. Alors, si on rapproche ces deux textes, si on les confronte, on s'aperçoit qu'on n'a pas une seule génération en jeu, mais au moins trois. Pourquoi ? Je dis au moins trois parce qu'il y a des allusions à un passé lointain. Il y a des allusions aussi à un futur ou à une absence de futur proche et lointain. Donc, mais trois générations sont identifiables précisément, celle des parents, dans le texte des Solitaires intempestifs, hein, nos parents sont cités, le « nous » et le « il » du texte des Solitaires, qui devient « il » donc dans le texte de Lise, c'est-à-dire la génération Lagarce, et enfin, les enfants hypothétiques représentés par Lise elle-même, c'est-à-dire que certains personnages comme Pierre soient sans enfants ou que l'ancienne amie Hélène ait une fille, deux filles dont Lise renvoie de toute façon à la possible génération ultérieure de ce nous auquel s'associe Jean-Luc Lagarce. Ces deux textes, alors évoque toutes sortes de choses. Je vais pas rentrer dans le détail parce que vous pouvez le faire vous-même de façon très très précise. Ça mérite une analyse de texte très au ligne à ligne. Moi, je suis frappé par la cohérence de tout ça. C'est-à-dire, par exemple, quand il cite les parents qui ont l'âge de Brigitte Bardot, Johnny Hallyday, Pierrot Le Fou, ils auraient l'âge de Gene Seberg. Alors, on a l'impression que c'est totalement incohérent. Pourquoi? Il y a une actrice de cinéma devenue un mythe érotique. Il y a un chanteur de rock'n'roll devenu lui aussi une sorte de légende. Il y a un personnage de film, Pierrot le Fou, hein, personnage de Godard. Et c'est le personnage qui est cité, ce n'est pas le titre, puisque l'expression n'est pas en italique. Et puis il y a, issu d'un autre film de Godard, Jean Seberg, hein, qui est l'héroïne d'À bout de souffle, 5 ans plus tôt. Et pourtant, tout cela est d'une extraordinaire cohérence. Pourquoi? Bah parce que Brigitte Bardot, dans Le Mépris, a été l'une des actrices phares de Godard. Johnny Hallyday, dans Détective, également, aux côtés de Nathalie Baye. Pierrot le Fou, le titre est cité. Jean Seberg, c'est À bout de souffle. Autrement dit, ces deux lignes représentent une sorte de constellation Godard qui, à mon avis, d'ailleurs, vient conforter l'héritage, la filiation Sarraute-Duras, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de meilleur représentant du nouveau roman, de ce qu'on pourrait appeler les cinémas du nouveau roman, de la nouvelle vague, à l'écran, que l'écriture de Jean-Luc Godard à cette époque, qui est une des plus radicales dans la fragmentation, dans la contradiction, comme dans le journal vidéo d'ailleurs de Jean-Luc Lagarce, entre l'image et le texte, l'image et les mots, l'image et le son. Bref, il y a là une véritable recherche formelle à laquelle, bien évidemment, s'identifie aussi Jean-Luc Lagarce, au-delà même de l'identification générationnelle de la génération des parents. Bien évidemment, quand il cite Marx et Coca-Cola, hein, ça renvoie 5 lignes auparavant à la guerre froide. On a l'Union soviétique d'un côté, avec sa référence à l'œuvre de Marx. On a les espoirs et les désirs de révolution qui traversent tout l'Occident à cette époque. Mais il y a aussi, à côté de la révolution, la consommation, et cette consommation qui nous vient de l'ennemi du bloc soviétique, à savoir les États-Unis. Donc il y a cette crise, ce déchirement, cet écartèlement entre l'Est et l'Ouest, entre la révolution et la consommation, qui sont exprimés très fort déjà comme une crise d'identité qui va se répercuter, hein, comme des vagues sonores successives, comme des ondes sonores successives dans les deux générations ultérieures, ce dont la petite Lise a tout à fait conscience, est tout à fait consciente. Il y a bien évidemment mai 68, il y a l'évolution de l'après 68 jusqu'à la génération morale. Moi, je suis extrêmement troublé que en 92, dans un texte de 92 déjà, Jean-Luc Lagarce épingle cette espèce de réaction conservatrice du politiquement correct, hein, qu'il voit tout de suite dans la façon dont se profile la génération morale, une espèce de retour de manivelle de la libération de mai 68. Bien, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce texte. Je passe tout de suite à celui de Lise, qui raconte toute une trajectoire, alors, toute la trajectoire d'une génération. Trajectoire géographique, sociale, culturelle, historique, hein, à partir de l'origine provinciale et sociologique, commerçante, les études parisiennes, mai 68, puis ce qu'on a appelé, par commodité, l'utopie du Larzac, c'est-à-dire du retour à la terre, gilet de peau de chèvre et fromage du même mammifère. La génération Babacool, cette génération Babacool qui, redécouvrant le confort, la consommation et la respectabilité liée à la maturité se transforme en génération bobo, hein, bourgeois bohème, et la boucle est bouclée, c'est-à-dire que après ce détour, ce parcours en 5 ou 6 étapes, on revient en quelque sorte, hein, comme dans les chansons de Jacques Brel, de façon cyclique, à l'identification bourgeoise à la génération précédente, même si un certain chemin a été parcouru, mais un chemin qui n'est pas toujours positif dans la mesure où, par exemple, on évoque beaucoup dans le texte des Solitaires intempestifs toute cette poétique du désastre et de la catastrophe et surtout les mots d'ordre peace and love qui se traduisent en spectre du sida ou du retour des guerres. Ces deux textes, je les identifie comme des textes aveux. Ce sont des textes qui sont presque échappés. J'ai presque le sentiment, quand je les lis, que Jean-Luc Lagarce a laissé échapper ça dans une espèce d'état second. Et en même temps, ce sont des textes qu'il a contrôlés, pour lesquels il a donné son accord d'impression et de publication. Mais c'est vrai que ce sont des textes en marge par rapport à l'ensemble de l'œuvre et à cet effort d'abstractisation que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce sont aussi des textes manifestes et qu'on peut interpréter comme une sorte d'appel à la vigilance. C'est-à-dire qu'au-delà du désancrage, au-delà de la déconnexion, au-delà de la relative abstractisation des fables, des personnages et des situations, il ne faut jamais oublier, et c'est ce que nous disent ces deux textes, le sujet de l'énonciation. Hein? D'où je parle, c'était une grande question, ça, posée par les acteurs de mai 68, et dans quelle histoire suis-je impliqué? Hein? Quelle est la part de projection subjective, quelle est la part d'autobiographie ou d'autofiction dans cette œuvre, et quelle est aussi la nature du sujet de l'énonciation? Et ce qui est très intéressant ici, à travers le jeu sur le nous et le il, c'est qu'on s'aperçoit que ce sujet de l'énonciation chez Jean-Luc Lagarce, il est pluriel. Il dit plus souvent nous et il que je. Mais même si le nous implique le moi au milieu de mes contemporains, le moi au milieu de mes semblables. C'est ça que j'appelle l'esquisse d'une identité générationnelle, même si elle est un peu marginale et timide dans l'ensemble de l'œuvre. Elle est forte sur ces deux textes-là, elle est très forte et elle doit, à mon avis, irradier toute la lecture des autres œuvres, y compris les plus déréalisées et les plus abstraites. De là doit-on faire de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce une œuvre sociologique? Sûrement pas. Sûrement pas. Et il y a un terme que je proposerais qui me paraît plus juste par rapport justement à cette recherche d'une identité générationnelle, relue, revue à travers l'art de la littérature, l'art du théâtre. Je parlerais plus volontiers d'une anthropologie. Une anthropologie du théâtre de Jean-Luc Lagarce, anthropologie diffuse, parfois codée, parfois cryptée, c'est un très beau chantier qui pourrait s'ouvrir que d'essayer d'identifier justement le travail de cette identité générationnelle à travers le travail de la forme, hein, de la mise en forme, de l'écriture et de la représentation. C'est peut-être ce qui a gêné les contemporains de Jean-Luc Lagarce dans les années 80, quand les premiers manuscrits, quand les premières brochures sont parvenus jusqu'à leurs mains. C'est peut-être ce qui explique, je ne sais pas ce qu'a dit Jean-Pierre Hanne, puisque malheureusement je n'étais pas là l'autre jour, je lirai sa communication plus tard, mais c'est peut-être là qu'il faut percevoir l'explication de ce décalage dans le temps entre l'écriture tout à fait singulière de cette œuvre que je considère comme éminemment générationnelle et sa réception, sa perception dans le temps, avec ce contretemps, ce rendez-vous manqué d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Mais peut-être aujourd'hui, justement, avec ce recul, sommes-nous mieux à même, hein, de lire cette espèce de déclinaison des identités générationnelles qui parcourent toute l'œuvre et qui travaille même dans des réécritures très abstraites comme celle de Juste la fin du monde ou Le pays lointain, où ces choses-là n'apparaissent qu'en filigrane, mais sont quand même très présentes et nourrissent de façon très riche la crédibilité de cette écriture et permettent du coup aux lecteurs et aux spectateurs de s'identifier, mais de s'identifier dans la distance critique. Et c'est avec beaucoup de subtilité, beaucoup de complexité, me semble-t-il, un pari réussi dans l'écriture de Lagarce, mais un pari risqué, en tous les cas, pour quelqu'un qui aurait souhaité être reconnu de son vivant.
Merci.
Merci.
Merci Yannick Mancel pour cette communication qui fait, je pense, un peu écho à des choses qu'on a déjà entendues lors des tables rondes, notamment, ou lors de la rencontre avec les comédiens. Donc, vous pouvez peut-être garder vos questions pour la partie discussion qui aura lieu, en fait, après la communication de Marie-Isabelle.